having the power to express themselves at scale is a new kind of force in the world. It is a fifth estate alongside the other power structures in our society.
Do you tweet and do you Twitter and will you Facebook me? I don't know how we live without technology.
So you won't take down lies or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no.
Congresswoman,
I'm not talking about spin. I'm talking about actual disinformation.
Yes, in most cases, in a democracy,
do you tweet,
I believe that
do you Twitter
and
will you Facebook me?
With politicians that they may or may not.
I don't know how we live without technology.
Facebook's really important, not just for...
Facebook est très important. Pas simplement parce qu'il permet aux gens de communiquer, mais parce qu'il bouleverse la démocratie et notre façon de voter.
It's the Facebook way.
Les relations entre les médias d'information et les géants de la distribution numérique font l'objet ces temps-ci de nombreux questionnements. Jeudi, plusieurs éditeurs de presse ont annoncé qu'ils allaient porter plainte contre Google pour abus de position dominante après que la multinationale a fait du chantage pour esquiver l'application du droit voisin, autrement dit, la rémunération des contenus de presse exploités par le moteur de recherche. Google va peut-être devoir batailler avec l'autre géant du numérique, Facebook, qui crée un onglet News, Actualité. On y reviendra. Mais cette fin de semaine a été marquée également par l'audition du patron de Facebook, une entreprise qui, je le rappelle, compte 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Une audition donc devant le Congrès américain au cours de laquelle la jeune élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a questionné Mark Zuckerberg sur la désinformation. Un échange plutôt tendu de 5 minutes qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il faut dire que le dirigeant du plus gros réseau social du monde avait la semaine dernière prononcé un discours sur la liberté d'expression devant des étudiants à Georgetown qui nécessitait à minima quelques explications. Nous aussi, nous avons besoin d'explications et nous avons donc invité deux spécialistes, journalistes spécialistes du numérique. Thomas Huchon, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Spicy. Vous avez réalisé le documentaire « Comment Trump a manipulé l'Amérique » et ça n'est pas le premier du genre.
Non, effectivement.
Qui sera diffusé sur Arte le 12 novembre. C'est un film dans lequel vous revenez notamment sur l'affaire Cambridge Analytica, du nom de cette entreprise qui avait été accusée d'avoir utilisé des données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook en vue de cibler des messages en faveur du Brexit et de l'élection de Donald Trump en 2016. Julien Lebotte est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes un spécialiste du numérique. Vous êtes l'auteur d'un livre qui va paraître le 6 novembre prochain aux éditions Actes Sud, Dans la tête de Mark Zuckerberg. On va vous demander ce qu'il a dans la tête. Je ne sais pas si vous avez réussi à trouver, mais j'aimerais qu'on parte de ce fameux discours face à des étudiants de Georgetown qui date du 17 octobre dernier. Discours de Mark Zuckerberg sur la liberté d'expression. Il a dit au cours de ce discours devant les étudiants: les citoyens qui ont la liberté de s'exprimer publiquement constituent une nouvelle force de notre monde, un cinquième pouvoir qui vient s'ajouter aux autres structures de pouvoir de nos sociétés. D'où ma question, est-ce que Facebook comme espace de libre expression totale, ce n'est pas au fond le cœur du problème ? Thomas Huchon.
Bah écoutez, moi, quand j'entends Mark Zuckerberg parler de liberté d'expression, j'ai un petit peu l'impression d'entendre Monsanto parler de santé publique.
Moi, c'est clair.
Ça m'inquiète énormément. Et en fait, le vrai problème, c'est que cette entreprise qui n'existait pas il y a 15 ans, il faut quand même le rappeler, qui a aujourd'hui plus d'adeptes que le christianisme, faut quand même se remettre un tout petit peu dans la perspective de l'histoire des sociétés. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui a 2,5 milliards d'utilisateurs. On va beaucoup plus souvent sur Facebook qu'on allait à l'église, et Facebook en sait beaucoup plus sur nous que notre confesseur de l'époque. Et le problème, c'est pas tant la liberté d'expression dont peuvent ou ne peuvent pas jouir tout un tas d'utilisateurs de Facebook, c'est que sur Facebook, c'est pas celui qui dit le plus la vérité qui est le plus vu, c'est pas celui qui dit les choses les plus intelligentes qui est le plus suivi, c'est bien souvent celui qui fait le plus appel à nos émotions, aux choses clivantes, aux choses choquantes, qui va avoir le plus d'audience. Et là où Facebook pose un problème, c'est pas tant dans la problématique de la liberté d'expression qu'il donne, bien qu'il pose pour toute la planète le concept américain de liberté d'expression, hein, qui est quand même pas exactement le même que chez nous en France, hein. Nous, les négationnistes, on trouve qu'ils ont pas le droit à la parole.
Facebook, pour ça.
Voilà, chez Facebook, c'est totalement possible. Hein, les croix gammées, tout ça, c'est super, on adore ça, on a le droit d'en parler. Nous, on considère que c'est pas possible. Mais le problème, c'est pas tant ça. Le problème, c'est la distribution de l'information. Et le fait que sur Facebook, personne ne peut vous dire pourquoi il voit passer tel type d'information ou tel autre, pas même d'ailleurs les gens de Facebook à qui on pose la question.
Julien Lebot.
Oui, alors ce qui est très compliqué, c'est qu'en plus, on a une sorte d'équation qui est en train de s'installer dans le paysage, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Facebook, c'est Internet. Or, effectivement, les internautes ont eu accès comme jamais, et c'est inédit dans l'histoire, à la prise de parole à partir du moment où Internet s'est démocratisé. Sauf que 2004 et puis ensuite, donc on a Facebook qui est venu progressivement conquérir un certain nombre d'utilisateurs, et on a l'impression désormais que les règles du jeu de Facebook correspondent à la règle de la prise de parole sur Internet.
Bah, de ce qui n'est pas Facebook, vrai. C'est aussi Messenger, c'est aussi WhatsApp, c'est aussi Instagram, donc ça multiplie un certain nombre d'applications.
Sans parler du fait que dans un certain nombre de territoires qui sont arrivés très très tard sur Internet, les internautes en découvrant Internet ont tout de suite découvert Facebook, et donc il n'y avait même pas eu d'éducation entre guillemets à Internet et à la prise de parole, et tout de suite ils se sont retrouvés dans cette mécanique informatique qui, comme vous le disiez, valorise les émotions, valorise les propos outranciers, mobilise vraiment des communautés avec ce que ça peut avoir de pire comme terme, donc sont rentrés dans un monde de surveillance et de distribution de contenu parfois très problématique. Et c'est ça, en fait, la grande histoire.
Mais effectivement, je crois qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans nos sociétés. C'est pas le fait qu'on puisse s'exprimer, c'est la manière qu'on a d'accéder à cette expression. C'est-à-dire la manière qu'ont les citoyens d'aller vers l'information, quelle qu'elle soit. Et en fait, le problème, c'est que...
Expression et information, c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas du tout la même chose, mais ça devient la même chose. Mais bon, on peut parler de Facebook, on peut parler de Twitter, on peut parler de YouTube, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'un gosse de 13 ans qui va vous expliquer la neuroscience aura beaucoup plus d'audience qu'un neuroscientifique. Un mec qui croit que la Terre est plate va avoir plus d'audience qu'un spécialiste de la NASA. Et en fait, cette espèce de perturbation systématique des règles de nos sociétés, vous savez, je crois que la hiérarchie de l'information, le fait qu'il y ait des choses plus importantes que d'autres, qu'il y ait des choses qui comptent plus que d'autres, c'est là-dessus qu'on a construit nos sociétés démocratiques. C'est là-dessus qu'on a construit 2000 ans de civilisation. Et quelque part, on est en train de tout remettre en cause en 15 ans, non pas pour remettre en cause les civilisations, mais parce qu'il y a une entreprise qui a décidé qu'elle gagnerait de l'argent, quelle que soit la manière dont elle allait le gagner.
Je vais vous donner la parole, Julien Lebot, mais quand même, Mark Zuckerberg, il n'est pas d'accord avec vous.
Ah non, ça, c'est certain.
Parce que lui, il dit justement que donner la parole à tout le monde donne plus de pouvoir à ceux qui sont impuissants et pousse la société à être meilleure avec le temps. Autrement dit, selon lui, la démocratie profite de cette liberté d'expression permise par les espaces en ligne de Facebook. Donc c'est un progrès de la démocratie, ce n'est pas ce que vous dites. Julien Lebot.
Oui, alors le fait que les médias, que plein d'institutions aient perdu le monopole sur la parole publique, c'est pas en soi un problème et une mauvaise chose. Il y a un problème de la visibilité, des modalités de la visibilité sur Facebook. C'est-à-dire que moi, je trouve ça très très bien, l'époque des blogs. Il y a plein de choses très bonnes aussi qui peuvent arriver. Vous avez parfois des spécialistes qui peuvent s'exprimer, en dehors d'ailleurs des canaux traditionnels pour s'exprimer. Non, ce qui est très dangereux, c'est que la visibilité telle qu'elle fonctionne sur des plateformes comme Facebook, elle ne valorise que les propos outranciers, encore une fois. Et en plus, c'est en un certain sens, contrairement à ce que dit Mark Zuckerberg, ce n'est pas un lieu où on est tous égaux devant la prise de parole. Il y a un grand ordonnancement des contenus, il y a une hiérarchie de l'information et des messages qui sont proférés sur Facebook. Et ça, c'est très problématique.
Prenons l'exemple de la publicité politique. Alors, il faut déjà expliquer ce que c'est la publicité politique aux États-Unis, parce que nous n'en avons pas, nous, de la publicité politique. Mais la publicité politique aux États-Unis favorise, en tous les cas, selon certains détracteurs de Facebook, la désinformation. Lui, encore une fois, prétend que Facebook est au contraire un garant de démocratie grâce à cette publicité politique, parce que ça donne l'opportunité à des petits candidats qui n'ont pas habituellement accès à l'attention, encore une fois, des médias traditionnels, on oppose bien les deux, et donc c'est une plateforme d'amplification du discours politique. Alors déjà, un mot sur cette publicité politique, Thomas Huchon, à l'américaine.
Bien, écoutez, sur Facebook, sur votre fil d'actualité, vous allez voir passer un certain nombre de liens sponsorisés ou de publicités. Pourquoi vous voyez ces publicités ? Bien parce qu'un annonceur a décidé de vous cibler avec ses messages. La publicité politique sur Facebook pose un immense problème, pas parce que c'est de la publicité politique sur Facebook, mais parce que Facebook met à disposition des annonceurs tout un tas d'informations extrêmement sensibles. On appelle ça la psychométrie. C'est une science qui permet d'étudier les comportements humains au travers de nos likes sur les réseaux sociaux. Par exemple, un homme de plus de 30 ans qui est inscrit sur Facebook, qui vit aux États-Unis et qui like la page de l'artiste Lady Gaga aura 88% de chances d'être homosexuel. Si vous savez ça, eh bien vous avez la possibilité de cibler les messages en fonction de la personne à qui vous parlez. C'est pas du tout de la communication politique comme ça a pu être fait. Et justement, c'est ce qui s'est passé durant l'année 2016. La psychométrie a permis à cette entreprise, Cambridge Analytica, qui a, non pas supposément, qui a volé les données Facebook de 87 millions d'utilisateurs sur la planète pour les cibler avec des messages. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont majoritairement ciblé les gens qui avaient des traits de névrose très forts et donc qui étaient angoissés, qui étaient donc susceptibles de répondre de manière beaucoup plus forte aux messages anxiogènes, homophobes, xénophobes de Donald Trump. Et ils ont réussi comme ça à cibler précisément les gens. Et le problème, c'est pas tant que ce ciblage existe, c'est que ce ciblage permette aussi de savoir que quelqu'un est un peu faible, qu'il a des biais psychologiques inconscients, et d'appuyer dessus à son insu pour changer sa perception du monde. Mais c'est délirant.
Mais là,
on est dans une entreprise de manipulation monumentale des sociétés qui n'est absolument pas acceptable.
Mais là aujourd'hui, Julien Lebot, ça va encore plus loin en vue des élections présidentielles de 2020, puisque on peut rappeler que dans le cadre des publicités politiques, par exemple en 2016, Facebook avait annoncé que le pape François soutenait la candidature de Donald Trump et que ça avait été cette information fausse la plus partagée de 2016. L'inquiétude par rapport à 2020, et c'est ce qu'a soulevé la Congresswoman, comme il l'a appelée, députée Alexandria Ocasio-Cortez, lors de cet échange qui n'était pas vraiment un échange, mais de ce questionnement sur la désinformation, c'est exactement ça. C'est dire finalement, vous allez raconter n'importe quoi, diffuser des publicités pas seulement ciblées, mais mensongères, donc des fausses informations qui risquent de toucher des personnes ciblées psychométriquement, comme vous le disiez, Thomas Huchon. C'est bien ça le problème.
En fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs que le newsfeed, c'est-à-dire le fil d'actualité, il y a aussi les stories, il y a aussi WhatsApp. On a bien vu par exemple au Brésil que la désinformation pouvait circuler par d'autres canaux. C'est l'ensemble des familles d'applications qui appartiennent à Facebook qui sont problématiques. Donc, on voit bien qu'il y a finalement un problème de régulation. Et je crois que l'enjeu n'est pas forcément seulement de démanteler.
Mais
non, Facebook n'est pas un média.
Il assume de ne pas vérifier.
D'ailleurs, Mark Zuckerberg, l'année dernière, a bien publié sa tribune disant « Aidez-moi, régulez-moi, j'ai un problème avec le free speech ». C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de position paradoxale où il dit la semaine dernière « Je suis le garant et le lieutenant d'une culture politique où le free speech, la liberté d'expression est fondamentale », et dans le même temps, l'année dernière, il dit « Attention, moi je suis un homme qui vient de la tech, donc moi vous allez m'aider à choisir ce qui est licite et ce qui est illicite ». Et c'est là que c'est très compliqué, parce qu'il faut que les régulateurs, du coup, soient à la hauteur, et pour l'instant, on n'y est pas.
Est-ce qu'il sait ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a conscience de tout ce qu'il a comme implication mondiale, démocratique, politique, tout ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la tête, voilà, de Mark Zuckerberg, puisque c'est le titre de votre ouvrage, Julien Lebot.
Je crois que c'est un vrai techno-optimiste. Et ce qui est problématique, c'est qu'il a la sensation et l'intime conviction que par l'outil, par une bonne organisation de l'information, on réussira ultimement à ce que on communie, les esprits communient, l'empathie sera démultipliée et on arrivera à se comprendre et entre guillemets à résoudre les maux globaux dont a pu souffrir l'humanité. Et on voit les enjeux aussi à venir. En réalité, il se trompe complètement, parce que il ne suffit pas, en fait, de pouvoir rendre visibles des messages ou de haine, ou de rire, ou des blagues, ou des choses comme ça, il faut réussir à organiser, à structurer, à accompagner une conversation. L'éducation, l'information, on voit bien que l'enjeu fondamental, c'est d'organiser, c'est de trier, c'est d'accompagner. Or, lui, il a l'impression que, finalement, chaque citoyen est suffisamment éclairé et armé pour aussitôt discriminer, faire la part des choses entre un contenu qui est censé le manipuler ou lui mentir, et une vérité. Ce qui n'est évidemment pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Alors, est-ce que ça doit venir du haut ou par le bas ? Élise, si on parle des États-Unis et de la campagne, la sénatrice du Massachusetts qui se présente à la primaire démocrate, Elizabeth Warren, a annoncé, elle, que si elle était élue, elle démantèlerait Facebook. Est-ce que c'est la solution, ou est-ce qu'il vaut mieux boycotter, ou est-ce que non, rien faire, effectivement, et ce sera la régulation par elle-même ?
Ben, je pense que pour répondre à votre question, il faut donner un ou deux chiffres. Premièrement, qui est l'homme politique sur la planète qui finance le plus de publicités ciblées sur Facebook ? C'est Donald Trump. $1 million dépensés par semaine depuis qu'il est élu comme président des États-Unis, c'est plus que la totalité de ses adversaires démocrates dans la primaire. Donc c'est sidérant comme quantité de messages, c'est absolument démentiel. Ça représente, si on fait le calcul, 52 semaines par an, $52 millions annuels gagnés par Facebook grâce à Donald Trump. Et c'est un élément, je pense qu'on oublie un petit peu trop souvent, Facebook est une entreprise.
Sauf que la publicité politique, c'est 0,03% de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que
touche mais, quand même mais, de l'argent mais, sur, mais, sur
mais,
les visibles.
Mais ils pourraient très facilement se détourner de cette
Mais ils pourraient, mais visiblement, ils ont décidé de pas le faire. Et je crois que quand on essaie de se demander ce qu'il y a dans la tête de Mark Zuckerberg, eh bien, on oublie de réfléchir un petit peu à qui est Mark Zuckerberg. On voit un jeune homme plutôt sympathique qui porte un sweat à capuche, des tongs, qui vit dans la Silicon Valley, qui fume peut-être des pétards et qui a l'air assez cool. En réalité, Mark Zuckerberg, c'est quoi? C'est potentiellement un mec qui a quand même des traits assez sociopathes et qui a décidé d'inventer une machine à humilier les filles qui ne voulaient pas sortir avec lui à l'université.
Non,
mais je veux dire, c'est quand même, je sais bien que vous n'y croyez pas, mais c'est quand même, il y a tout un tas de gens qui l'expliquent, et notamment les gens qui ont travaillé avec lui chez Facebook, Chris Hughes en particulier.
Non, qui appelle au démantèlement parce qu'il dit que cette entreprise est trop puissante.
Mais oui, mais
son propos, il est purement économique. Il est sur le fait qu'il n'y a plus d'innovation possible à partir du moment où vous avez des acteurs aussi puissants. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'observer que les gens qui ont travaillé avec lui disent qu'effectivement il a beaucoup trop de pouvoir. D'ailleurs, un chiffre, 60% des droits de vote au conseil d'administration de Facebook, c'est démentiel. Cet homme a beaucoup trop de pouvoir sur cette entreprise qui elle-même organise l'information.
Ce qui n'en fait pas un sociopathe pour autant.
Exactement. C'est pas ce que je veux dire. D'ailleurs, il était un sociopathe. J'ai dit qu'il avait des traits de sociopathe. Quand on a 22 ans et qu'on crée une machine à humilier les filles qui veulent pas sortir avec vous à la fac, qui était quand même le départ de Facebook, ça s'appelait FaceMatch, c'était deux filles côte à côte, quelle est la plus belle? Et il crée ça dans la soirée où il fait.
Je crois qu'il faut recontextualiser l'histoire de l'apparition de ce genre de site. Il y a eu FaceMatch, il y avait eu d'autres expériences.
Oui, mais
on ne peut pas faire le débat sur la tête.
Non, je pense que le vrai débat est sur l'économie de la surveillance. Et en fait, Facebook est l'autre nom de l'économie des GAFAM, en réalité. Il est là, le débat. Voilà. Le débat, il est sur l'encadrement de toutes ces entreprises qui se font fortes, de cibler les individus pour ensuite vendre tout ça à des annonceurs.
Donc, Julien Lebotte, est-ce que vous croyez en la régulation par l'État?
Alors le fait, bientôt on va avoir le projet de loi Avia qui va passer au Sénat et qui prévoit précisément que ce soit Facebook et les grandes plateformes qui deviennent responsables de l'identification des messages manifestement illicites. C'est-à-dire que la régulation prévoit qu'on délègue à des algorithmes et à des entreprises de droit privé la régulation de la liberté d'expression. Ben là je crois que c'est un vrai problème parce que en fait on est en train de privatiser non seulement l'accès à la prise de parole publique, mais en même temps ça la régulation. C'est un recul de l'État et de la liberté d'expression. C'est très grave ce qui est en train de se passer, je crois.
Et je crois qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on remette un tout petit peu sur la table. Une entreprise française ne respecterait pas la loi française et ne paierait pas les impôts qu'elle doit à notre pays. Elle aurait été fermée depuis des années. Facebook ne respecte pas la loi de notre pays et, en droit des contrats français, les conditions d'utilisation de Facebook ne sont pas légales. Et il y a tout un tas de juristes qui l'expliquent depuis un certain nombre d'années. Facebook ne paye pas les impôts qu'il doit payer à notre pays. Il arrive à déplacer, comme ils ont une politique d'optimisation fiscale extrêmement performante. Voilà, on a un vrai problème sur les données personnelles. Comment est-ce que ces données personnelles sont gérées? Donc, on a quand même là, sur une entreprise, trois énormes problèmes juridiques. Et qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on est 70 millions et que eux, ils sont 2 milliards et demi. Il s'agit d'une des 5 plus grosses entreprises de l'humanité aujourd'hui et surtout de l'histoire de l'humanité.
Qu'est-ce que vous préconisez? Un retrait général? Un boycott?
Je conseille à tous les citoyens français de quitter Facebook, de quitter ses réseaux sociaux, d'exiger la restitution de leurs données personnelles et de rejoindre les class actions qui existent pour demander réparation sur la mauvaise utilisation de leurs données personnelles par toutes ces entreprises. On ne peut pas continuer dans cette situation. Le problème, c'est pas la liberté d'expression. C'est que s'il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus de liberté possible.
Il y a un autre aspect qui est un peu... On pourrait faire une analogie avec celle de la malbouffe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une question d'éducation aussi qui est fondamentale et d'encadrement. C'est-à-dire que je pense que par des petites lois, on n'arrivera à rien. Il faut à un moment donné, au niveau européen, par exemple, on réfléchisse très profondément sur ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire avec ces plateformes qui aujourd'hui ont un rôle majeur et un impact majeur sur le fonctionnement démocratique.
Julien Lebotte, dans la tête de Mark Zuckerberg, un livre qui va sortir le 6 novembre prochain aux éditions Actes Sud. Thomas Huchon, votre Merci. Film « Comment Trump a manipulé l'Amérique » sera quant à lui diffusé sur Arte le 12 novembre. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.